With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séances Radio.
Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un cinéma que j'aime bien, le cinéma chilien. Non. Déjà, c'est très raciste et ça, c'est mexicain. Bref, j'aime le cinéma chilien, d'une, parce que ses réalisateurs les plus emblématiques font d'excellents films et parce que c'est un pays que j'ai eu la chance de visiter du nord au sud, d'ouest en est et que j'ai trouvé absolument magnifique. Bref, je ne vais pas vous raconter mon voyage, surtout la partie où je découvre l'alcool local, mais plutôt vous parler donc du cinéma chilien. Bon, avant de commencer, je voulais vous parler du Chili et de son histoire. Cependant, le petit résumé que j'avais écrit était beaucoup trop long. Alors on va seulement diviser cela en quelques dates. La première, c'est septembre 1970 et l'élection de Salvador Allende. En gros, c'était le premier président élu démocratiquement sur un programme socialiste et disposant d'une majorité parlementaire. Simplement, il faut savoir qu'il a fait n'importe quoi et qu'il a plongé le pays dans une profonde faillite. Exemple, plus 508% d'inflation en un an. Deuxième date, septembre 1973. Et le coup d'État mené par le général Augusto Pinochet. Au programme, dissolution du Congrès national, instauration d'un couvre-feu, interdiction d'un certain type de littérature, torture et exécution des opposants, construction de camps de concentration, bref, ça fait froid dans le dos. Enfin, dernière et troisième date, 1990, et le retour de la démocratie dans le pays. Retour gagnant d'ailleurs, puisque le Chili de Michelle Bachelet, la présidente actuelle, est le deuxième pays le plus riche d'Amérique latine. Bref, tout ça pour dire que ces dates sont extrêmement importantes, puisqu'elles ont fort logiquement impacté le cinéma national. Mais tout de suite, parlons du cinéma chilien. D'abord, la première étape est ce qu'on a appelé le nouveau cinéma chilien, un courant apparu à la fin des années 60 et dont les figures de proue n'étaient autres que Raul Ruiz, Aldo Francia et surtout Miguel Littin. Profitant de la création d'un département expérimental à l'Université du Chili, ces cinéastes créent un véritable style made in Chile, un cinéma qui s'attache à montrer la condition sociale comme dans Tres Tristes Tigres de Raul Ruiz. En plus donc d'une reconnaissance officielle du cinéma chilien, cette nouvelle vague va profiter d'un tournant décisif avec la création du premier festival international du cinéma latino-américain. Ça se passe en 1967 à Viña del Mar. Cet événement permet entre autres aux Chiliens de se familiariser avec leur cinéma, celui qui les représente, et notamment avec Aldo Francia, qui deux ans plus tard sortira Valparaiso, mon amour. Et puis il y aura aussi Michel Littin et son Chacal des Naoule Toro en 1969, un film produit par l'Université du Chili, reconstitution d'un fait réel, celui du crime de plusieurs femmes et enfants perpétré par Jorge del Carmen Valenzuela, dit le Chacal, une sorte de docu-fiction acclamé par la critique et récompensé en 1970 au Festival international du film de Berlin.
Tengo esperanza en que el presidente me dará el indulto.
Et puis on en parlait, viennent les années 70 et plus particulièrement le coup d'État de Pinochet en 1973. Les conséquences sont néfastes pour le cinéma chilien puisque la plupart des unités de production ferment. Outre une poignée de cinéastes qui réussissent à produire des films et ce malgré les risques, la majorité des réalisateurs chiliens s'exilent à l'étranger. La diaspora chilienne arrive donc à s'exprimer avec l'aide de leur pays d'accueil. Exemple symptomatique de cette réussite, Raul Ruiz qui produit une poignée de chefs-d'œuvre avec la complicité de la France, faisant d'ailleurs tourner des actrices comme Catherine Deneuve dans Généalogie d'un crime. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Ruiz parler de son actrice.
Pour rendre hommage à Catherine,
Parce que c'est trop rare, c'est rarissime quand même que quelqu'un, comme elle, puisse accepter un rôle sans connaître le scénario. Normalement, ça ne se fait pas.
Dans ce registre, on peut également citer La bataille du Chili de Patricio Guzman ou encore Santa Sangre et El Topo d'Alejandro Jodorowsky. La fin de la dictature au début des années 90 marque le renouveau des productions cinématographiques chiliennes. Une résurrection qui mettra tout de même plus de 10 ans à être reconnue à l'international, mais qui sera mise à l'honneur dès le milieu des années 2000, et notamment en 2005, avec ce qu'on appelle le tout nouveau cinéma chilien, une appellation censée le démarquer du nouveau cinéma chilien, le mouvement de la fin des années 60. En fait, en 2004, le Chili met en place une loi datant de 1967, bloquée sous la dictature. Un texte qui mènera directement à la création d'un conseil d'art et d'industrie audiovisuelle. Un an plus tard, en 2005 donc, le cinéma chilien récolte les fruits de ce travail législatif. Cette année, sont projetés les excellents Sabado de Matias Bizet, Play de Alicia Skerson et La Sagrada Familia de Sebastián Leylo. Ces jeunes cinéastes, encore peu connus, bouleversent l'ordre établi, notamment dans la manière de tourner et dans les sujets qu'ils abordent, créant comme une nouvelle tendance tournée vers le futur, appelée, je vous le disais, le tout nouveau cinéma chilien.
Mais qui me está preguntando, Blanquita, mi amor, cómo está donde la Antonia? Por favor,
no estuviste donde la Antonia.
No, bueno, no, por favor.
Ya, y ay, ¿qué te hizo ese tupón que tenía ahí, mira?
Cette tendance atteint son paroxysme à la fin des années 2000 et se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui. Symbole de cela, le rayonnement du cinéma chilien à l'international. En 2009, La Nana de Sebastián Silva remporte le prix du jury dans la catégorie Meilleur film dramatique au Festival de Sundance. La Nana sera d'ailleurs imitée en 2012 par Violeta se fue en los cielos d'Andrés Wood avec la même récompense. Mais ça ne s'arrête pas là. Le tout nouveau cinéma chilien atteint définitivement la reconnaissance qu'il mérite en 2013 avec No de Pablo Larraine qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger.
Entendemos que el gobierno de las naciones, lo que los romanos llamaban la cosa pública, interesa a todos y debe realizarse à la vista de todos.
Qui plus est, la reine n'est pas seule. La documentariste Marcela Seid et son Été des poissons volants a ensorcelé la quinzaine des réalisateurs en 2013. On peut aussi citer Dominga Sotomayor ou Le Gloria de Sebastián Leyó. Plus récemment, le film Tout va bien de Alejandro Fernández Almendras a beaucoup fait parler de lui. Bref, depuis le début des années 2000, on est en droit de se demander si le Chili n'est pas le meilleur représentant du cinéma latino-américain actuel. Loin de moi l'idée de répondre et de me fâcher avec les Brésiliens ou même les Argentins qui produisent également un cinéma de qualité. Cependant, difficile de passer à côté des pellicules chiliennes et de leurs représentants. Simplement, et pour conclure, je citerai Cristian Jiménez quand on lui demande ce qu'il pense de l'avenir du cinéma au Chili. Les meilleurs films restent à venir.
C'était Le pavé dans la toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.